Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance, en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, je recevrai Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, pour notre émission Petit sujet psychologique. Et enfin, nous terminerons avec votre nouveau rendez-vous, Espérance, une série d'émissions sur l'actualité au regard de la Bible avec Philippe Delaize. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Des chercheurs canadiens l'affirment, l'obésité devrait être considérée comme une forme de vieillissement prématuré. En effet, comme le vieillissement, elle prédispose à des pathologies généralement rencontrées chez les personnes âgées. Environ 1,9 milliard d'adultes et 380 millions d'enfants dans le monde seraient obèses ou en surpoids. Et avec leur nouvelle découverte, des chercheurs de l'université Concordia encouragent les autorités sanitaires à revoir leur copie en matière de lutte contre cette pathologie. En passant en revue plus de 200 études sur les effets de l'obésité, ils ont en effet observé que les comorbidités liées à l'obésité et au vieillissement se développent selon des mécanismes similaires. En clair, l'obésité aurait les mêmes effets sur le corps que le vieillissement. Par exemple, sur le plan génétique, les chercheurs indiquent que l'obésité influe sur de nombreuses altérations attribuées au vieillissement, comme le raccourcissement des télomères, des capuchons protecteurs situés à l'extrémité des chromosomes. Ces télomères constituent un excellent marqueur du temps qui passe. Les auteurs soutiennent également que les effets de l'obésité sur le déclin cognitif, la mobilité, l'hypertension et le stress sont similaires à ceux du vieillissement. Les patients en surpoids sont aussi davantage sujets à la sarcopénie, une détérioration de la force musculaire liée à l'âge. Les scientifiques espèrent donc que ces observations orienteront vers une nouvelle approche pour aider à mieux appréhender l'obésité et à l'aborder différemment.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Si vous avez des callosités douloureuses sur les orteils ou le talon, peut-être s'agit-il d'un corps bénin. Ce durcissement de la peau peut toutefois devenir invalidant s'il n'est pas traité. Il peut arriver que la peau, par un mécanisme de défense contre les frictions et les irritations, développe trop de cellules sur une zone précise. C'est ce qui se passe dans le cas des corps aux pieds. Au début, la callosité est superficielle et elle est asymptomatique. Mais si rien n'est fait pour la traiter, le corps s'installe et devient profond et douloureux. Les sportifs qui marchent beaucoup ou qui effectuent des courses à pied de manière prolongée sont souvent victimes de ces manifestations cutanées. Du fait de la sensibilité de leur peau, les seniors et les personnes âgées sont aussi plus susceptibles d'en souffrir. Mais la principale cause des corps est le port de chaussures inadaptées à la morphologie des pieds. Si vous observez un épaississement localisé au niveau de vos pieds qui ne se résorbe pas avec l'hydratation et le gommage, une consultation médicale est recommandée. Votre médecin pourra alors vous prescrire des soins chez un pédicure podologue. Il pourra réaliser un bilan afin de diagnostiquer les causes de la survenue des corps. Afin de réduire les pressions exercées sur le pied, il vous conseillera sans doute le port de semelles orthopédiques adaptées, confectionnées sur mesure, ou encore celui d'orthoplastie, des orthèses amovibles fabriquées sur mesure pour protéger un orteil en conflit avec l'orteil voisin. Pour tous, l'idéal pour prévenir la survenue de corps aux pieds consiste à opter pour des chaussettes en fibres naturelles et pour des chaussures légères, souples et conformes à la forme des pieds. Pensez également à laver et bien sécher quotidiennement vos pieds et vos orteils.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista.
La voce della speranza.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne la semaine prochaine à la même heure. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre nouveau rendez-vous, Petit Sujet Psychologique. J'y reçois Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
Petit Sujet Psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute.
Bienvenue pour notre émission Petit Sujet Psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez régulièrement à ce micro nous parler de psychologie, ça va de soi. Aujourd'hui, vous nous parlerez d'une thérapie et précisément de l'EMDR. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, Éléonore ?
Voilà, alors je vous propose d'en parler parce que c'est vrai que souvent, à la fin de chaque émission, on en parle un petit peu. Alors, l'EMDR, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sigle anglais qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Donc, en gros, en français, c'est thérapie de reprogrammation par les mouvements oculaires.
Comment est-ce que ça se passe exactement ?
Alors, déjà, cette thérapie, c'est aujourd'hui, on va dire, la thérapie la plus efficace qui existe au monde. Alors, je vous dis pas que dans 10 ans, ce sera toujours le cas. Peut-être on aura d'autres thérapies qui sont encore plus efficaces. Et c'est une thérapie qui est validée à peu près depuis les années 80 et qui est recommandée par des hautes instances de santé, par 16 organismes internationaux de santé.
On peut pas considérer que ce soit une thérapie très récente.
Depuis les années 80. Donc c'est pas si récent que ça, mais nous en France, ça fait peu de temps qu'on l'a.
D'accord, ça vient des États-Unis.
Ça a été validé, au début aux États-Unis, ça a été créé par Francine Shapiro. Alors ensuite, peut-être pour rentrer un peu plus sur cette thérapie. Donc déjà pour comprendre cette thérapie, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. Puisqu'en fait, cette thérapie va permettre au cerveau de revisiter certaines expériences traumatiques pour les digérer physiologiquement, chimiquement.
Donc, c'est pour traiter des traumatismes.
Voilà. Alors, c'est vraiment des recommandations internationales de santé pour le trouble de stress post-traumatique, notamment. Oui. Mais en fait, ça va retraiter toutes les expériences traumatiques qui n'ont pas été retraitées de façon adaptée par le cerveau.
D'accord. Donc, il y a différentes étapes dans cette thérapie.
Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, en gros, dans le cerveau, je vais vraiment schématiser à outrance, on va dire il y a deux zones. Donc on a toujours notre cerveau reptilien qui est au cœur du cerveau, vraiment comme si notre cerveau s'était développé un peu comme un oignon en plusieurs couches.
Oui.
Et ensuite est venu se développer par-dessus le cerveau reptilien, le cerveau mammalien, le cerveau des mammifères, qu'on appelle aussi le cerveau cognitif. Et le cerveau reptilien, donc c'est celui-là en fait qui va nous intéresser nous quand on va retraiter les traumas, c'est-à-dire qu'en fait il va recevoir tous les événements stressants ou qui nous mettent en danger de mort, il va activer une partie qui s'appelle l'amygdale qui va nous permettre de générer dans notre corps une réaction face au stress. Et face à cette réaction, donc de façon innée, dans notre cerveau, on va avoir trois réactions, soit le combat, soit la fuite, soit la sidération. Donc ça, ce sont vraiment des mécanismes, on va dire, génétiques, c'est pas...
Ancrés.
Ancrés, voilà. Par exemple, si vous passez quelque part et qu'il y a un chien qui aboie et que vous l'aviez pas vu, vous allez sentir votre cœur qui tressaute, une bouffée de chaleur, les cheveux qui se dressent sur la tête, voilà. Et donc ça, on peut pas dire consciemment, tiens, je décide d'avoir peur. C'est vraiment un réflexe reptilien. Voilà. Alors, quand on a des traumas, c'est souvent que, justement, l'amygdale a été sollicitée. Donc, c'est pas forcément de la peur, mais ça peut être des situations qui nous ont fait sidérer parce que ça faisait non-sens. Si par exemple j'ai un parent qui a des problèmes d'alcool, qui va changer d'humeur, mon cerveau va sidérer parce que ça fait pas sens. Un coup c'est un papa câlin, un coup c'est un papa violent et du coup je vais développer une hypervigilance. Donc en fait mon amygdale va être sursollicitée pendant toute une partie de mon développement. Et ça va rester. C'est comme si mon cerveau, il installait des petits logiciels qui étaient adaptatifs pour gérer mon environnement et qui vont continuer à fonctionner de cette façon-là.
Donc, on est programmé d'une certaine manière.
C'est ça. Alors, c'est adaptatif. Heureusement que je gère de cette façon-là. Mais le souci, c'est qu'après, peut-être, si j'ai, je sais pas, un patron qui un peu le même timbre de voix que mon père ou quoi, bah, mon cerveau va se déclencher tout seul. C'est-à-dire, je vais avoir une réaction d'alarme qui va être un peu sensible.
Le programme se remet en route.
Et je vais sidérer.
D'accord.
Et donc, j'ai des gens qui peuvent dire, bah, je comprends pas, mon patron, je sais qu'il est pas méchant, il est un peu grande gueule, mais alors moi, je suis complètement buggée, j'arrive même plus à travailler, quoi. Je suis en stress complet. Alors, c'est là où intervient, on va dire, la thérapie EMDR, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la seule thérapie aujourd'hui qu'on connaît et qui a été validée aussi par des PET scans et de l'imagerie cérébrale. C'est-à-dire que les zones qui sont activées quand on est face à des situations qui vont nous faire revivre le trauma ne seront plus activées après la thérapie EMDR. Et on sait que cette thérapie, elle remet en route le système d'auto-réparation de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est un organe, comme tous les autres organes dans le corps humain, et il a son processus d'auto-réparation, comme mon foie, comme mon os, comme ma peau. Alors, on est une mécanique assez géniale quand même. On est programmé pour s'auto-réparer. Notre cerveau, toutes les nuits, il fait une mise à jour disque dur. C'est-à-dire que toutes les nuits, on va notamment faire du rêve pendant la phase du sommeil paradoxal, qui est aussi une phase qu'on appelle REM, qui veut dire Rapid Eye Movement. Pendant que nos cerveaux font mise à jour disque dur, toutes les nuits, on a des balayages oculaires. On peut le voir quand on regarde nos enfants dormir, parfois, sous les paupières. Hein, il y a de l'activité. Et là, ça veut dire qu'ils sont en retraitement des données.
D'accord. Donc, et ça dure toute la nuit ou une partie
non,
de la
pendant
nuit
la phase du sommeil paradoxal, quand on rêve, quand on dort, pardon, on a plusieurs phase, hein, sommeil lent profond, sommeil paradoxal, etc. Je vois qu'on arrive à la fin, c'est assez frustrant.
Oui, le temps passe vite hein, pendant cette émission.
Donc, voilà, en gros, je pourrais vous expliquer dans une autre émission comment, plus concrètement, dans le détail d'une séance EMDR, comment ça se passe.
Donc à partir de ces informations concernant le fonctionnement du cerveau, comment
une
séance de thérapie EMDR se passe?
Alors en fait, globalement, puisque je ne vais pas avoir le temps de développer plus, en fait, cette thérapie, avec les mouvements oculaires rapides, va permettre tout simplement de remettre en route votre système de digestion qui va solliciter l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est l'organe qui va désenquister l'amygdale où sont coincés les traumas, en gros, et qui va retraiter et réencoder de façon adaptée dans le cerveau cognitif. C'est comme si on avait des dossiers qui étaient classés un peu en zone secret défense et qu'on allait pouvoir retraiter et après on les met aux archives normales. C'est des dossiers classés, traités, qui posent plus problème.
Alors, Éléonore Tarlé, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était Petit Sujet Psychologique. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission dans laquelle nous pourrons parler justement précisément de cette thérapie qui est le EMDR.
Et avec grand plaisir.
Merci beaucoup. À
merci
bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la radio mondiale adventiste. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Juste avant, c'était Petit Sujet Psychologique avec Éléonore Tarlé que vous retrouverez mardi prochain sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
Et bienvenue dans cette nouvelle émission dans notre série sur la thématique de l'espérance dans la Bible et toujours en compagnie de Philippe Delay. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Vous êtes notre interlocuteur pour détailler, on a parlé durant ces dernières semaines, de la prophétie de Daniel que l'on trouve dans son livre au chapitre 7 et 8, deux prophéties qui sont mêlées et autour d'une corne, une petite corne telle qu'elle est appelée, qui choisit de modifier les lois et les temps. Alors, on a vu dans notre dernière émission que la notion de loi et de temps implique par exemple le quatrième commandement et que le jour du repos de la Bible est passé du sabbat au dimanche. Mais pourquoi ça s'est passé ?
Et tout d'abord, n'oublions pas que nous sommes dans un conflit d'adoration. Nous l'avions évoqué lors d'une précédente émission. C'est une tentation à laquelle Jésus a été confronté. Nous trouvons le récit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Je vous cite. « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Satan est à l'origine du paganisme, et il fait son possible pour égarer les nations. Une fois qu'il s'est infiltré dans le christianisme, tranquillement, en se servant de responsables religieux, il en change les préceptes et ainsi il modifie la loi et change les temps, comme nous dit le prophète Daniel. Ce changement ne s'est pas fait en un jour, mais sur plusieurs siècles.
Donc, je suppose que nous devons avoir des faits historiques qui parlent de ce changement.
Oui, et pour comprendre l'origine de ce changement, nous devons comprendre quelle était la... Les historiens datent le début de l'Empire romain aux environs de 27 à 31 avant Jésus-Christ. Il s'agit du moment où Octavien a battu les forces d'Antoine et Cléopâtre et qu'il est revenu à Rome pour régner comme premier César, César Auguste, empereur. Et lors de son retour, il a ramené deux grands obélisques à Rome. L'un de ces obélisques a été érigé au cirque Maxime. Il était dédié au dieu soleil. C'est également un signe que Rome a conquis Égypte. Le dieu soleil romain a vaincu le dieu soleil égyptien. C'est une dédicace que César Auguste a gravée sur cet obélisque et qui était à la vue de tout Romain venant au cirque.
Donc en fait, les Romains, avec tous les dieux qu'ils avaient, adoraient également le soleil comme le faisaient les Égyptiens.
Oui, et même, c'était le principal. Et les empereurs qui ont succédé ont fait de même. Et cette adoration a été renforcée au sein des militaires. Alors nous avons l'historien Plutarque qui nous rapporte comment le général romain Pompée, en 50 avant Jésus-Christ, a ramené à Rome des pirates capturés sous la Méditerranée orientale. Or, il s'avéra que ces pirates étaient des adorateurs de Mithra, un dieu guerrier et justicier. Le dieu soleil. Et ces pirates popularisèrent et renforcèrent cette adoration à Rome. L'empereur Constantin, qui a christianisé son empire, a gardé lui aussi son adoration au soleil. Et pour l'anecdote, nos auditeurs pourraient s'interroger, le bonnet de Mithra ne recouvre-t-il pas la Marianne française ?
Alors, je me pose quand même une question. Quelle a été la réaction des chefs religieux à l'époque de Constantin, justement ?
Alors, pour certains dirigeants chrétiens, il leur a semblé intéressant de pouvoir tirer profit de cette popularité du dimanche. Surtout en considérant que l'observation du dimanche rendrait le christianisme plus attrayant aux païens, qui rendait déjà un culte d'adoration au soleil ce jour même.
Alors, Constantin l'a consolidé, si je puis dire ?
Oui, Constantin l'a consolidé. Et je vous rappelle qu'il fut le premier empereur à professer une foi chrétienne. Et tout en gardant un mélange de mithraïsme et de christianisme, son règne marque un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. Je vous cite ce que nous dit Henri Milman dans l'histoire du christianisme. Je lis « Le règne de Constantin le Grand est une des grandes périodes de l'histoire du monde. C'est l'ère de la dissolution de l'Empire romain. Le commencement ou plutôt la consolidation d'un genre de despotisme oriental avec une nouvelle capitale, une nouvelle constitution et enfin une nouvelle religion. Constantin enseigna à ses armées à honorer avec zèle le jour du Seigneur, le dimanche. » Et ainsi référant comme le jour de la lumière et du soleil, ceci est une pratique complètement païenne.
D'où l'état politico-religieux dont nous avons parlé dans nos précédentes émissions.
Effectivement, oui. Un nouveau genre d'église et un nouveau genre d'état émergea. Ils étaient si étroitement liés qu'il était difficile de déterminer où commençait l'un et où se terminait l'autre. Je vous lis son règlement de sa nouvelle loi du dimanche. Pendant le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes vivant dans les cités se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Cependant, dans les campagnes, les personnes vacant aux tâches agricoles peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités. Constantin, année 321. Il a fait ça sans tenir compte de théologie ou d'enseignement de l'Église apostolique. Il demande de s'abstenir de travailler durant le jour vénérable du soleil. Preuve que le soleil devint au sein de cette mélange politico-religieux de plus en plus un objet d'adoration. Et même un calendrier édité en 354, soit 17 ans après la mort de Constantin, y figure quatre fêtes dédiées au dieu soleil. Donc le christianisme et le paganisme marchaient de pair. Et le prophète Amos nous pose cette question dans son chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?
Donc, ça laisse sous-entendre que l'Église n'a pas réagi à cette décision de Constantin et même qu'elle y a adhéré ?
En fait, c'est l'Église, lors de ses conciles, qui a profité de ce pouvoir séculier pour affermir ses doctrines et ses traditions. Je vous cite un texte, un brin antisémite, issu d'un concile. « Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur le dimanche. Et s'ils le peuvent, se reposer ce jour-là en tant que chrétiens. » Mais quiconque est trouvé judaïsant qu'il soit anathème de Christ. C'est tiré du canon 29 du concile de Laodicée qui s'est tenu avant 381. Ce qui voulait dire que les chrétiens qui étaient fidèles au sabbat seraient excommuniés de l'Église. Cette position extrême du dimanche contre le sabbat est devenue un des piliers de l'enseignement de l'Église catholique romaine. Ce changement du sabbat au premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, est devenu le symbole, ou plutôt la marque de l'autorité papale et du catholicisme romain.
Avec ces éléments historiques, nous comprenons mieux d'où vient cette doctrine qui, en fait, vient valider la prophétie de Daniel concernant le changement du calendrier et de la loi par la fameuse petite corne. Mais j'imagine quand même qu'à travers les siècles, il y a dû y avoir des disputes à ce sujet.
Oui, à travers les siècles, mais ça dure jusqu'à nous aujourd'hui. Ça a duré déjà plusieurs siècles. En l'an 602, le pape Grégoire Ier assimilait les observateurs du sabbat à l'Antéchrist. En fait, il les appelait les judaïsants à cause de leur persistance à respecter le septième jour pour se reposer et adorer Dieu comme Dieu le demande. Et puis, il y a eu des stratégies, voire même une attaque pour dégoûter les fidèles de l'observation du sabbat. L'Église a imposé par un règlement l'interdiction de manger le septième jour. En d'autres mots, d'un jeûne du sabbat. De cette manière, cela rendait le jour du sabbat rébarbatif, de plus que c'était contraire à ce qu'enseignait le judaïsme. Pour le judaïsme, le sabbat est un jour de fête, et de jeûner le jour du sabbat était considéré comme une transgression du sabbat. Mais cette stratégie a payé, car pour beaucoup de croyants, le vendredi était déjà un jour de jeûne. Et en une seule génération, les jeunes chrétiens ont eu une réversion pour le sabbat, qui était devenu un jour de jeûne et de tristesse. Par contre, il eut un attrait pour le dimanche, qui lui était devenu un jour de fête et de réjouissance. Alors, écoutez ce que dit le pape Sylvestre au IVe siècle. « Si tous les dimanches doivent être observés dans la joie par les chrétiens à cause de la résurrection, les sabbats, à cause de la mise au tombeau, doivent aviver l'exécration des juifs. »
Donc, déjà au IVe siècle, on peut découvrir les prémices de l'antisémitisme au sein du catholicisme. Mais tous les chefs religieux de cette époque ont accepté ces enseignements ?
Non, il y a eu au IIIe siècle Hippolyte de Rome. Lui conteste cette situation. Je le cite. « Même à notre époque, certains enseignent à jeûner le jour du sabbat, ce dont le Christ n'a pas parlé. Ils déshonorent ainsi l'évangile de Christ. Il y a même un document qui nous rapporte qu'Augustin, un des pères les plus influents de l'Église romaine, prit la défense des membres de l'Église qui n'observaient pas le jeûne du sabbat. Pour les orthodoxes chrétiens de l'Est, le jeûne du sabbat est insensé, car le sabbat marque deux grands événements, l'accomplissement de la création et l'accomplissement de la rédemption. » Ainsi, le sabbat est un double sujet de fête et ne peut être en aucun cas associé au jeûne et aux lamentations. En l'an 867, Photios, patriarche de Constantinople et principal rival du pape de Rome, invita ses collègues de l'Est pour un concile et durant ce concile, il accusa l'Église de l'Ouest, c'est-à-dire la Rome papale, de 8 hérésies dont le sabbat fut la première citée. Nous pourrions croire qu'il ne s'agit que d'une tempête dans un verre d'eau, mais en réalité, ce fut une des causes du schisme entre Constantinople et Rome qui eut lieu le 16 juillet 1054 sur la question de l'autorité du pape romain qui imposait une religion de tradition, dont celle du jeûne le jour du sabbat.
Donc nous voyons que la bataille a fait rage pendant des décennies sur ce sujet.
Oui, et sans oublier, cher Gaël, qu'en arrière-plan, il s'agit du conflit entre Christ et Satan. Un conflit, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se porte sur l'adoration et qui entraîne le monde entier derrière lui. Jésus nous dit « Si vous m'aimez, respectez mon commandement ». Ça vient de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Et le même apôtre, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 3, il nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Vous savez, ce combat durera jusqu'à la fin des temps et nous aurons l'occasion d'y revenir lorsque nous aborderons le dernier livre de la Bible.
Eh bien, merci Philippe pour ces quelques éclaircissements qui nous permettent de bien voir comment la petite corne a pu modifier les temps et la loi à travers les siècles. Ça ne s'est pas fait en un jour. Et aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'il reste de cela dans notre monde séculier ? Philippe, nous allons, j'imagine, continuer à découvrir cette prophétie du livre de Daniel au chapitre 7 et 8. Donc, je propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour ça.
Avec plaisir, Gaël. Merci.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste et vous écoutiez La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres et bien sûr tout cela en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.